Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue dans votre magazine de droits et devoirs. Nous poursuivons notre thème de redevabilité des institutions d'appui à la démocratie. Après vous avoir entretenu le mardi dernier sur la redevabilité de la CNDH, aujourd'hui nous planchons sur la redevabilité du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Quel état des lieux faire de cette institution? Quelle est sa part de redevabilité dans ce qu'elle fait vis-à-vis de la population? Celle-ci, comment participe-t-elle dans ce que fait le CESAC? Voilà l'objet de ce thème que nous abordons tout à l'heure avec le président de cet organe de régulation des médias congolais et enseignant du journalisme, Tito Ndombi, que nous recevons dans cette émission.
Tito Ndombi, bonjour.
Bonjour.
Quel état des lieux pouvez-vous faire de votre institution près de 6 ans d'existence?
Bon, l'état des lieux, ce que je dirais, c'est que pendant ces 6 ans, nous nous sommes battus, nous avons consacré tous nos efforts à asseoir le CESAC dans l'architecture institutionnelle de la République. Les instances de régulation des médias, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans les jeunes démocraties comme les nôtres. Et pendant 6 ans, nous avons cherché à faire connaître et asseoir le CESAC parce que, comme vous le savez, c'est une institution constitutionnelle avec des attributions étendues, investie de larges compétences, et il fallait asseoir cette institution, qu'elle soit reconnue. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il faut vraiment faire un état des lieux, je peux dire qu'aujourd'hui, le CESAC, nous avons réussi à asseoir l'institution, à faire connaître le CESAC.
Vous avez dit que vous avez réussi à faire asseoir et faire connaître l'institution, mais l'opinion publique que nous avons interrogée dans la rue ignore tout du CESAC. Lorsque nous lui demandons, connaissez-vous l'organe qui régule le secteur des médias? Tout le monde confond le CESAC au ministère de la communication et médias.
Tout ce que je sais, c'est Lambert Mende qui s'occupe de ça, il est à la tête de tout, mais l'organe, le secteur dans lequel il régit tout ça, aucune idée.
Vous n'avez jamais entendu parler du CESAC?
C'est la première fois en tout cas.
Pour enrichir, puisqu'il y a d'autres chaînes, il faut aussi parler qui ne respectent pas la présomption d'innocence de certaines personnes qui médiatisent tout alors que certaines choses ne sont pas médiatisées.
Vous connaissez l'organe qui régule le secteur des médias?
Aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Nous savons juste que le ministère de la communication.
Vous ne connaissez pas le CESAC?
Non, non, non. Personnellement, nous ne connaissons pas puisqu'il ne s'est fait pas sentir sur le terrain.
Je ne sais pas. Peut-être, bon, ça c'est aussi après l'audit que nous avons fait nous-mêmes, c'est peut-être un diagnostic aussi qui apparaît clairement. Il y a peut-être ce déficit de communication parce que nous faisons beaucoup, nous avons beaucoup fait. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment vulgarisé notre institution. Nous n'avons pas suffisamment vulgarisé tout le travail que nous avons fait jusqu'ici. Ça, on le reconnaît. C'est peut-être ce qui fait qu'on n'est pas très connu. Mais il faut reconnaître que nous avons réalisé un travail immense au niveau du CESAC. Et peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Et comme on dit, faire, bien faire et le faire connaître.
L'opinion publique aussi s'interroge sur le travail qui fait réellement le CESAC. Mmh. Le moment où on assiste à des programmes télévisés qui sont ennuyeux, qui choquent même les mœurs. À longueur de journée, on est en train de suivre des histoires à la télévision qui sont insupportables avec des parents, avec des injures proférées sur des médias publics et on ne sent pas les sanctions du CESAC.
Les chaînes à Kinshasa naissent comme des chaînes. Il n'y a pas de programme fixe et quand tu veux regarder quelque chose, tu sais que ça t'a telle heure, quand tu arrives là, tu trouves autre chose. Or, il devrait avoir chaque chaîne pour chaque chose et non, dans la même chaîne. La même chaîne, on a des films, des dessins animés, puis la même chaîne des prédications, puis toutes les chaînes. Au fait, quelle chaîne on va suivre réellement? En plus, c'est ennuyant. Il n'y a rien de bon à suivre. En plus, même avec les parents, mais il n'y a même pas de divertissement pour les jeunes.
Des fois, je me rends compte qu'il y a un chevauchement entre le CESAC et le ministère des médias et la presse en général ne comprend plus rien. Quelque part, je comprends que le CESAC a les mains liées parce qu'elle n'est pas aussi indépendante. Parce que généralement, la presse doit être indépendante pour bien faire son travail. C'est ce que le CESAC n'arrive pas encore à faire.
Qu'est-ce qui justifie cette inaction du CESAC?
Bon, parler d'une action, moi je n'épouse pas cette opinion. Parce que l'action du CESAC est vraiment palpable. Parce que je mesure, par exemple, en termes, en ce qui concerne les sanctions. Généralement, quand quelqu'un se sentait lésé par un média et tout ça, la première des choses était d'intéresser la police, d'intéresser les tribunaux et tout ça. Mais si vous vous rendez compte du nombre de correspondances que nous avons, des plaintes contre les médias, contre les journalistes, je crois que ça, le CESAC a beaucoup contribué pour changer l'opinion. C'est parce que ces gens-là qui nous écrivent savent que si je m'adresse au CESAC, le CESAC peut sanctionner telle faute. Donc, on n'est pas dans l'inaction, On est vraiment dans l'action. Mais peut-être que les gens ne connaissent pas aussi bien l'émission du CESAC et considèrent seulement le CESAC comme un père fouettard de qui ils attendent des sanctions. Non, parce que le CESAC d'abord c'est quoi? Que dit la loi? Quelles sont les missions qui sont confiées au CESAC? Le CESAC a pour première mission d'abord de garantir la liberté de la presse, garantir la liberté de l'information et de tout moyen de communication des masses. Le CESAC a pour mission d'assurer la protection de la presse, de veiller au respect de la déontologie en matière de l'information, mais de veiller aussi à l'accès équitable des partis politiques, des associations, de toute autre personne, de tout courant, aux médias, des services publics. Mais en dehors de ces missions-là, il y a aussi des attributions. Et c'est là où je voudrais retomber sur ce que vous avez demandé, c'est sur la qualité de production. Parce que le CESAC aussi a pour mission de faire le suivi des contenus des médias, mais aussi de veiller sur la qualité de la protection. Et ce suivi, nous le faisons. Et nous le faisons comment? Nous avons un centre de monitoring. Le centre de monitoring observe au quotidien le contenu que proposent les médias et fait des rapports. C'est sur base de ces rapports que le CESAC peut réagir. Et pendant longtemps, au CESAC, nous avons privilégié l'aspect pédagogique. Aujourd'hui, c'est ça, la régulation, c'est ça. Dans toutes les instances, vous allez voir que c'est souvent l'aspect pédagogique qui est privilégié. Même en famille, c'est pas en fouettant tous les jours les enfants qu'on les corrige, hein. Mais il faut leur montrer que voilà, vous avez commis telle faute. Si vous retombez dans ce genre de faute-là, on va sanctionner. La profession aussi a sa part de responsabilité. Les journalistes, on régule les médias en tant qu'entreprise. Mais la question des professionnels des médias relève de la profession. Les professionnels ne nous intéressent que quand ils commettent des infractions. Quand les professionnels commettent des infractions, il y a une plainte contre lui, nous transférons la plainte à l'UNPC et la loi dit que si au bout de 7 jours l'UNPC ne réagit pas, à ce moment-là nous saisissons du problème. Et on reproche aujourd'hui aux médias les contenus et fonctions des personnes qui font ce travail. Aujourd'hui, quand vous suivez toutes les chaînes de télévision, il suffit d'enlever les logos qu'on met là-bas et vous allez voir que tout le monde fait la même chose de toutes les chaînes. Et le travail des journalistes consiste à quoi aujourd'hui? À seulement tendre un micro, prélever les sons et puis on aligne tous ces sons-là. Mais aucun travail d'analyse, aucun travail de fond. C'est ça le problème. Et ça, il y a aussi la part des patrons des entreprises. La qualité des contenus, c'est pas seulement le problème de CESAC. C'est un travail à faire ensemble, un travail de synergie entre la profession et l'institution de régulation.
Donc, j'allais déjà vous demander, vous poser une question sur les défis. Déjà, vous parlez d'un défi de professionnalisation. Vous avez relevé le problème de responsabilité même des journalistes, puis le problème du recrutement à la base, ce qui fait qu'on tombe dans des contenus qui ne répondent pas.
Oui, parce que moi, je ne vous coupe pas la parole. J'ai toujours dit que notre profession est victime de son extrême porosité. Parce que, bon, elle est tellement poreuse que n'importe qui vient. Tous ceux qui ont raté leur destin se retrouvent dans la profession. On prend, on recrute n'importe qui, les gens viennent. Il suffit qu'ils sachent se mettre, de s'asseoir devant un micro et commencer à parler. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut attendre de gens comme ça?
Et puis, c'est devenu presque une chanson. Dans tous les congrès de refondation de l'UNPC, plusieurs fois, on revient toujours sur ces problèmes d'assainissement de la profession. Mais le problème de mer, comment y mettre fin?
Voilà, nous venons de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, nous venons de cette journée, et on a entendu des discours, comme vous dites, ce sont des discours qu'on a entendus l'année passée, qu'on a entendus cette année, que nous allons entendre l'année prochaine. On fait des recommandations à tout le monde, au gouvernement, on fait des recommandations à l'instance de régulation, on fait des recommandations aux partenaires, mais on ne fait pas des recommandations à la profession, alors que c'est à ce niveau-là qu'il faut résoudre le problème. Moi, je me dis, c'est bon de proclamer haut et fort la liberté de la presse et sa nécessité. Mais qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? Parce que cette liberté a une contrepartie, c'est la responsabilité. Cela veut dire, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions accéder à un statut de presse responsable, où nous avons des journalistes responsables, des journalistes professionnels qui font un travail responsable? Et moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, il y a urgence pour que nous puissions lancer un débat de fond sur la qualité des personnes que nous employons dans les médias et sur la qualité des contenus qu'ils produisent. Il faut un débat de fond. Et ce travail-là doit être fait au niveau de la profession. Aujourd'hui, le paysage médiatique congolais, il est politisé. On connaît tous les propriétaires de ces médias. Les journalistes qui sont là, ils travaillent dans quelles conditions? Ils travaillent dans la précarité.
Sans contrat.
Sans contrat, presque sans salaire et tout ça. Ils travaillent pour les gens qui les motivent.
Nous rappelons à tous ceux qui nous rejoignent en cours de l'émission que nous recevons Tito Ndombi avec qui nous planchons sur la redevabilité du CESAC. Suivons à présent ce que pensent les journalistes du travail abattu par le CESAC pendant 6 ans d'existence. passe.
J'ai une perception négative à ce qui concerne leur manière d'être derrière les organes, surtout de l'opposition. Cette institution fonctionne souvent, c'est pour soit fermer des maisons de presse qui sont de l'opposition. Par contre, lorsqu'il s'agit des organes qui sont de l'obédience du pouvoir en place, on sent qu'il y a à boire et à manger. Par exemple, je prends le cas de la maison mère RTNC.
Oui, c'est ça que c'est une institution d'appui à la démocratie que nous avons choisie, mais depuis sa mise en place, il n'a pas travaillé conformément à sa mission. En tout cas, le souhait serait qu'on puisse appliquer l'accord du 31 décembre afin qu'on puisse mettre en place des nouveaux animateurs de sac. Peut-être que cela, ils peuvent permettre à ce que le sac puisse faire sa mission et puis permettre à ce que l'accès aux médias, surtout aux médias publics, soit équitable. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à la RTNC, c'est du n'importe quoi. C'est ça qu'on n'a pas le pouvoir de prendre des sanctions sur des journalistes réfractaires.
Parmi vos missions, vous devez veiller à l'accès de tous
aux médias publics.
Est-ce qu'aujourd'hui, les médias publics s'ouvrent à tout le monde?
Bon, le constat, il est clair. Mais, comme j'ai toujours dit, les gens, ils voient toujours les CESAC. Médias, là, ça ne marche pas, c'est les CESAC, non, mais la régulation des médias, c'est une expérience nouvelle dans les jeunes démocraties comme les nôtres. Et vous voyez d'où nous venons. Monopole de l'État et les médias à la solde des pouvoirs publics, à la solde du gouvernement. Maintenant, progressivement, il faut une mutation. C'est un travail de longue haleine, un travail de conviction, un travail de sensibilisation. Amener tout le monde à comprendre le bien fondé de l'accès équitable des partis politiques, des associations, de toutes les personnes aux moyens officiels d'information. Parce que vous savez, qui dit moyens officiels dit moyens de l'État, dit taxes, impôts payés par l'État. Et qui dit moyens de l'État dit neutralité, dit équité. Alors, nous, en tant que régulateurs, en quoi consiste notre travail? Vous avez vu les négociations politiques du 18 octobre. Recommandation, CESAC, garantir l'accès équitable. Que fait le CESAC? Que lui autorise la loi? Nous avons produit une directive.
Vous êtes une institution citoyenne. Vous avez le devoir de rendre compte de ce que vous faites à la population. Et celle-ci a aussi le droit de participer à ce que vous faites.
Oui.
Comment intégrez-vous la dimension population dans le travail que vous faites?
Que nous demande la loi? La loi nous demande de déposer périodiquement un rapport sur nos activités. Et ce rapport, nous le déposons au Parlement, parce que c'est la représentativité nationale. Donc c'est de cette façon-là que c'est ça, le devoir de redevabilité. On nous demande, bon, vous êtes une institution publique, vous fonctionnez avec des moyens de l'État, tout ça, l'État vous a fixé des missions, comment est-ce que vous les avez remplies pendant cette période et tout ça? Nous consignons tout cela dans un rapport que nous déposons au Parlement.
Maintenant, on en vient d'abord au fonctionnement du centre monitoring. Pour le commun des mortels, c'est la mémoire même du CESAC qui lui permet d'être à l'écoute de la population à travers les médias. Ce centre fonctionne toujours avec le vieux matériel analogique, alors qu'on est déjà passé au numérique. Comment expliquez-vous cet emploi des vieux matériels analogiques? Vous vous rendez dans plusieurs centres de monitoring dans des pays où existent encore les organes de régulation. On utilise le numérique.
Oui, vous avez raison. Le centre de monitoring pour nous, c'est notre centre neuralgique, parce que vous savez, le travail au quotidien de CESAC, c'est le suivi des contenus. Et le suivi des contenus est assuré par qui? Par le centre de monitoring. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Le centre de monitoring ne peut pas fonctionner avec du matériel que nous avons aujourd'hui, dans les contextes technologiques actuels de la numérisation, tout ça. On ne peut pas faire fonctionner le centre de monitoring avec du petit matériel qu'on va récupérer sur la veine du commerce. Non. Tout est aujourd'hui numérisé. Cela veut dire que nous devons avoir un centre de monitoring qui nous permet de suivre le contenu en temps réel, mais qui nous permet aussi de mémoriser ce que nous avons suivi. Parce que, en cas de problème, si aujourd'hui nous recevons une plainte, quelqu'un nous dit, par exemple, qu'au mois de février dernier, tout ça, sur telle chaîne de télévision, on a dit ceci, cela, tout ça, et puis bon, moi je n'étais pas là, je viens d'apprendre, je viens porter plainte. Nous devons être en mesure de remonter au mois de février, suivre sur cette chaîne de télévision ce que c'était dit ces jours-là. Et on ne peut le faire aujourd'hui qu'avec du matériel numérique. Et aujourd'hui, toutes les instances de régulation au niveau de l'Afrique, parce que je participe régulièrement aux rencontres des réseaux des instances de régulation de l'Afrique, tout le monde commence à s'équiper avec du matériel. Mais ça nécessite beaucoup de moyens. Et nous, les moyens là ne peuvent être fournis que par le trésor public. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la ACA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel du Maroc, qui a développé un système qui permet de faire les monitorings, d'enregistrer les médias en temps réel et qui vous permet de conserver, en ce qui concerne la radio, les sons pendant une année, en ce qui concerne la télévision, les sons pendant 6 mois. Et toutes les instances des régulations de l'Afrique maintenant sont en train d'aller s'équiper là-bas, se fournir là-bas en équipement. Et même le CESA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Belgique a été équipé par le Maroc. Alors maintenant, la procédure c'est quoi? C'est qu'il faut trouver les moyens de faire venir des techniciens marocains qui viennent ici faire un audit technique de notre centre de monitoring. Et puis, ils nous disent quel matériel il faut. Et puis, ils font un état de besoin du matériel qu'il faut acheter. Quand le matériel est acheté, ils viennent, ils installent et puis ils forment le personnel. Bon, nous avons déjà pris tous les contacts nécessaires. Maintenant, il faut trouver les moyens pour trouver les financements, de faire venir ces techniciens, qu'ils fassent l'audit et puis nous proposer le matériel. Mais le CESAC aussi se bute à un grand problème. Nous n'avons pas de siège, nous n'avons pas de bureau. Et nous, ici, nous sommes...
Ici, c'est le provisoire.
Ici, c'est le provisoire. Nous sommes des locataires. Et c'est chaque fois que le bailleur menace de nous expulser, parce que chaque fois qu'il y a un retard de paiement pour le loyer, le bailleur vient, il menace de nous faire partir, il coupe l'eau, il coupe l'électricité, et il menace, il y avait même un procès contre nous pour que nous soyons expulsés. Alors, maintenant, imaginez-vous, les techniciens viennent, et que dans le mois qui vient, le bailleur nous chasse d'ici. Vous voyez que c'est un problème. Et nous avons entamé une démarche au niveau du ministère des ITPR pour qu'on nous trouve des bureaux. Les démarches étaient très avancées avec l'ancien ministre des ITPR, qui nous avait mis sur les listes pour les bâtiments qu'on était en train de réfectionner au niveau de Royal. Bon, il y a eu changement de ministre. Celui qui est venu, nous avons aussi pris contact avec lui. Il a pris notre dossier à cœur. Il cherche tout ça parce que nous devons absolument avoir des bureaux d'où nous ne serons pas délogés. Parce que quand ces matériels-là est placé, c'est pour longtemps. Il ne faut pas qu'il soit placé pour être démonté 3 mois après, pour être démonté 6 mois après. Il sera abîmé.
C'est un problème.
Oui, donc vous voyez, c'est un problème, c'est difficile. Mais dans les conditions actuelles, on ne sait pas faire un véritable monitoring avec les équipements actuels.
C'est le même problème dont se plaint aussi la CNDH.
Le problème
d'infrastructure.
Le problème d'infrastructure, le problème de logistique.
Le problème de moyens.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et devoir.
Droit et devoir.
J'ai vu si tu vois, dis bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de GED, journaliste en danger, une ONG qui s'occupe des droits et libertés de la presse, des journalistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'état des lieux de l'institution qui régule les médias congolais, le CESAC, à 6 ans d'existence, dans le cadre de la redevabilité des institutions d'appui à la démocratie. Comment appréciez-vous ce travail du moment où le CESAC s'est plaint qu'il n'a pas les moyens pour mieux faire son travail?
Si telle était la situation, effectivement, je trouve que il s'agit d'une situation qui est tout à fait scandaleuse, vraiment une honte pour le pays. Le CESAC est une institution publique dont les charges de fonctionnement émargent au budget de l'État. Sauf à vouloir effectivement confirmer par ce fait que donc nous avons affaire à un pays ou un État qui est effectivement en faillite, moi je ne peux pas comprendre qu'une institution publique puisse manquer de moyens. Mais je crois que, à mon avis, quand je regarde ce qui se fait, il s'agit moins d'une question de moyens que plutôt d'un problème de manque de volonté politique. Vous savez que dans tous les pays du monde, la caractéristique principale d'une instance de régulation des médias comme le CESAC, ça veut dire que cette instance doit absolument être indépendante, aussi bien sur le plan politique que sur le plan financier. Aujourd'hui, moi, je me pose la question, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas de moyens de fonctionner, ils n'ont même pas de bâtiment où se loger, moi, je me pose la question aujourd'hui, qui a vraiment intérêt à avoir un CESAC fort, un CESAC indépendant pour qu'il joue effectivement son rôle de régulation? Est-ce que tout n'est pas mis en mouvement pour effectivement essayer de faire disparaître cette institution? Moi, je constate que dans son fonctionnement, depuis le départ, que tout est mis en œuvre pour essayer un peu d'embrigader le CESAC et de réduire le plus possible sa marge de manœuvre par rapport notamment aux autres services de sécurité.
Nous rappelons à tous ceux qui nous rejoignent en cours de l'émission que nous recevons Tito Ndombi avec qui nous planchons sur la redevabilité du CESAC.
Les gens parlent souvent d'indépendance des instances de régulation. Mais moi, quand on parle d'indépendance des instances de régulation, même, il y a même des thèses de doctorat sur ça. L'indépendance, c'est d'abord en termes de moyens. L'instance doit disposer des moyens. D'abord ça, le grand problème. Ensuite, être en mesure, avoir le pouvoir de prendre des mesures, de pouvoir appliquer ces mesures et tout ça. C'est ça l'indépendance de l'instance de régulation. Mais nous, les moyens, ils sont très réduit. Vous voyez, on est bloqué. Alors maintenant, avec les difficultés des finances, quand vous faites 2-3 mois sans frais de fonctionnement, qu'est-ce qui arrive? Vous ne payez pas les loyers, les coordonnateurs se retrouvent dehors. Aujourd'hui, beaucoup de nos coordonnateurs sont dehors, ils n'ont plus de bureau.
Maintenant, avec le démembrement des provinces,
oui.
Nous passons maintenant à 26
provinces. Oui, c'est ça justement.
Et nous sommes à l'horizon.
Oui.
Est-ce que vous êtes suffisamment représenté dans toutes les provinces?
Non, voilà, c'est ça justement. Nous avons fait l'effort d'avoir des coordinations provinciales dans l'ancienne configuration. Aujourd'hui, c'est 26 provinces, donc nous devons voir, et ça c'est le premier projet dans notre plan d'activité prioritaire, pouvoir installer les coordinations provinciales. Parce que les élections qui viennent, c'est quoi? Ce ne sont pas seulement les élections présidentielles, les élections législatives, ce sont les élections locales. Là, c'est des gens dans le village, dans la cité qui se battent et tout ça. Ce combat-là se traduit dans les médias. Il faut qu'il y ait un coordonnateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive, il faut que le CESAC soit là.
La loi vous donne la mission de réguler aussi le secteur publicitaire.
Oui.
Mais nous constatons souvent des conflits à ce niveau-là entre le CESAC et la Commission nationale des censures. Alors que c'est le CESAC qui est habilité à réguler ce secteur publicitaire. Comment sortir de ces conflits? Est-ce que vous vous concertez à l'avance avec la Commission des censures?
C'est depuis longtemps que nous attendons cette concertation. C'est parce que la loi est claire. Bon, il y a une loi qui est au Parlement en discussion, une loi générale sur la publicité, mais qui n'a pas encore été, je crois, adoptée et promulguée. Mais dans l'état actuel, la loi est claire. Il n'y a que le CESAC qui régule le secteur de la publicité dans les médias, a priori et a posteriori. Pour qu'une publicité soit diffusée dans les médias, il faudra que le CESAC puisse donner un avis de conformité pour voir si la publicité est conforme à la loi, elle est conforme aux bonnes mœurs et tout ça. La loi est claire en cette matière. Mais avant l'avènement de CESAC, il y avait un vide, ce qui fait que la commission de censure avait repris à son compte la publicité. Mais dès lors qu'il y a une loi sur le CESAC, dès lors qu'il y a eu la mise en place du CESAC, je crois que la commission de censure devait se dessaisir parce qu'il n'y a aucun texte qui donne à la commission de censure ce privilège-là. Nous avons demandé qu'on puisse discuter ensemble. J'ai même ici des lettres du Premier ministre, j'ai des lettres du ministre des médias qui ont soutenu cette initiative du CESAC-là. Des lettres du Premier ministre adressées au ministre de la Justice. Aujourd'hui, souvent on reproche au CESAC, mais comment une publicité comme celle-là peut passer vraiment à la télévision, tout ça, dans les médias et tout ça? On reproche la qualité de la publicité. Mais qu'est-ce qui arrive? Si vous invitez ces gens-là, mais vous diffusez une publicité-là, elle n'est pas revêtue de l'avis des conformités du CESAC, comment est-ce qu'elle est diffusée dans les médias? Ah non, nous sommes allés à la commission de censure. Vous voyez? Alors, quand quelqu'un est allé à la commission de censure, il a payé son argent et l'autorisation, il ne peut plus venir au CESAC. D'autant plus que, bon, le CESAC ne va pas le mettre au cachot et
est-ce que vous avez quand même un moyen contraignant pour que vos mesures ne puissent pas souffrir d'application?
Oui, bon, nous on prend une mesure. Nous, on n'a pas de cachot, on ne peut pas arrêter les gens. On demande à la personne de venir régulariser sa situation. On suspend si les médias n'obtempèrent pas continuer à diffuser. La seule possibilité pour nous, c'est de saisir la justice pour qu'elle nous aide à appliquer la preuve dans toutes les décisions. Nous adressons une copie au procureur pour que...
Mais il y a des animateurs des émissions qui vont suspendre à l'RTNC, mais on voit que ces émissions la passent toujours. Ces animateurs qui sont suspendus, mais ils récidivent.
Mais vous voyez, bon, moi je vois de qui vous parlez, l'animateur. Je crois qu'il n'y a qu'un professionnel des médias qui fréquente autant le bureau de CESAC que l'animateur dont vous parlez, qui est régulièrement invité ici, avec qui nous avons régulièrement des séances pédagogiques. À un moment, il a été sanctionné. Il avait écopé d'un embargo de 3 mois. Bon, il est parti et puis il est revenu. Tout ce que nous avons fait, c'est il faut un monitoring, parce que c'est sur base de ça que nous pouvons prendre d'autres mesures. Il y a un monitoring qui essaie de suivre régulièrement et de relever tous les dérapages.
Vous êtes appelé à veiller à la liberté de la presse. Le 3 mai, nous avons célébré la journée mondiale de la liberté de la presse. Plusieurs organisations internationales comme locales ont dénoncé l'asphyxie de cette liberté de la presse en RDC, notamment Amnesty International, Reporters sans frontières et GED, qui ont donné même quelques statistiques que je peux aussi citer. À ce jour, le classement mondial de la liberté de la presse 2017 place la RDC au 154e rang sur 180 pays observés, soit un recul de 2 places par rapport à 2016. Et c'est son plus mauvais score depuis 2002. Entre 2015 et 2016, les autorités congolaises ont multiplié la fermeture des médias et mis en place des mesures administratives restrictives pour la presse, dont la radio-télévision Joua, que vous connaissez, de l'opposant Jean-Claude Muyambo, qui est en prison, et Nyota, de l'opposant politique Moïse Katumbi et Albumbashi, qui sont toujours fermés, alors qu'il y a eu même des mesures de décrispation prises au niveau des négociations du centre interdiocésain. Là, nous parlons donc de la liberté de la presse qui est asphyxiée à ces niveaux-là. Qu'est fait le CESAC?
Vous savez, les organisations, les associations professionnelles, les organisations internationales, quand ils parlent de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, tout ça, c'est plus, ils font plus référence un peu, comme vous dites, à ces médias qui ont été fermés. Alors, les médias ont été fermés. Nous, en tant que régulateurs des médias, CESAC, quel est notre rôle? Parce que nous avons pour mission, comme vous avez dit, de protéger la presse. Cela veut dire que nous, quand un média est fermé, c'est un problème pour nous, parce que nous avons pour mission de protéger la presse et de veiller au respect de la liberté. Alors, quand un média est fermé, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais la loi ne nous laisse qu'une seule possibilité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est assurer la médiation en cas de conflit
et
dans
parfois,
le secteur.
Pardon? Et cette médiation échoue toujours?
Non, pas nécessairement. Vous savez, quand vous faites la médiation, la médiation, vous savez, c'est dépend plus des parties prenantes que du médiateur. Vous savez, c'est ça la difficulté. Quand nous sommes allés aux négociations de la CENCO, nous sommes partis pour 3 jours, mais on a fait combien de temps?
La réaction de GED.
Nous regrettons le fait que plus souvent, le ministère essaie d'empiéter sur les prérogatives du CESAC et donc fait ombrage au fonctionnement normal de cette instance qui devait être effectivement une instance d'appui à la démocratie.
Et l'accès de tous les courants de pensée aux médias publics, puisqu'il y a toujours des gens qui se plaignent, qui n'ont pas accès aux médias publics.
Mais écoutez, je pense que cette question d'accès aux médias publics, il faut peut-être la poser expressément aux acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, pour qu'ils disent si ils ont accès ou non à ce que vous qualifiez de médias publics, parce que pour moi, je constate que la RTNC, si vous voulez parler bien de la RTNC, ce n'est pas, en tout cas à mon sens, un média public à proprement parler, ou comme on aurait voulu l'avoir joué effectivement ce rôle d'un média de service public. Ce que moi je constate, c'est que la RTNC aujourd'hui, c'est un média d'État qui est au service du gouvernement et de la majorité au pouvoir.
Quand on Est-ce que vous ne vous sentez pas étouffé par le ministère de la communication et médias?
Non, pas étouffé. Être étouffé, bon, le ministre lui fait son travail, nous faisons notre travail de régulation au quotidien.
Et ce n'est pas vous qui fermez les médias?
Oui, c'est pas nous qui fermons les médias. Et quand un média est fermé, c'est tout à fait normal que... Parce que vous savez...
Mais quand c'est fermé, c'est vous qu'on voit.
Oui, mais oui.
Où est passé le CESAC?
C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Chaque fois qu'un média est fermé, c'est à 5h30 qu'on vous appelle. Mais président, vous nous avez coupé le signal. On court derrière la dépénalisation, mais cette dépénalisation, nous ne pouvons l'obtenir que si nous devenons une presse vraiment responsable.
Nous allons vous demander de relever les faiblesses et les points forts du CESAC durant ces 6 ans d'existence. Et quelles sont ses perspectives d'avenir?
Les faiblesses du CESAC, peut-être nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour faire connaître le travail que nous faisons. Pour que, au-delà des institutions, au-delà des personnes concernées dans les médias, de faire vraiment asseoir l'institution.
Et d'expliquer, de vulgariser votre émission. Vous voyez la confusion dans l'opinion publique.
Expliquer, vulgariser notre émission pour éviter qu'il y ait des confusions, pour qu'on nous mette tout sous la tête. Mais les points forts, aujourd'hui, le CESAC, quelles que soient les faiblesses, s'est quand même installé, fait un grand travail de régulation au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, il a produit, par exemple, une directive sur la publicité. Comment peut se faire la publicité dans les médias? Nous avons fait une directive sur la signalétique jeunesse. Parce que vous savez, quand vous regardez la télé, parfois les choses qu'on nous propose dans les programmes, vous avez relevé ça au départ. Des programmes, c'est parfois inadapté à des heures indues. Nous avons fait une directive sur l'accès aux médias en période ordinaire. Parce que nous avons pour mission de garantir l'accès équitable, mais aussi de veiller à l'équité, même dans les médias privés. Nous avons fait une directive sur la télédistribution. Parce que vous savez, la télédistribution, quand elle est venue, bon, la loi de Nancy n'avait pas prévu tout ça. Les gens sont venus, ils ont commencé à s'installer. Et nous avons fait une directive sur la campagne électorale. Pour le moment, nous avons tout un plan d'action prioritaire qui porte sur les déploiements du CESAC à travers les provinces, le travail à faire au niveau de renforcement des capacités des professionnels des médias et tout ça. Donc, il faut compter aussi parmi les faiblesses, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens, tout ce travail, vous pouvez avoir le plus grand projet du monde, vous pouvez avoir le plus grand plan d'activité du monde, mais quand les moyens ne suivent pas, la mise en œuvre devient compliquée.
Qu'est-ce que vous pouvez dire en 3 ou 4 mots pour conclure l'émission sur votre redevabilité?
Le CESAC a un mandat constitutionnel pour remplir des missions que j'ai citées ici. Et ces missions consistent en quoi? Je vous ai dit, nous devons protéger, garantir la liberté de la presse, nous devons protéger la presse, nous devons veiller au respect de l'éthique et de la déontologie, et nous devons veiller à l'accès équitable des partis politiques, de tous les courants d'opinion dans les médias publics. Et nous, et ce travail ne peut se faire qu'en toute indépendance, que nous soyons une institution en laquelle se reconnaît la population. Parce que si vous faites un travail, il faut qu'on reconnaisse quand même que le travail est bien fait. Si les gens ne reconnaissent pas le travail que vous faites, c'est que quelque part, vous ne remplissez pas les missions qui vous ont été confiées.
Nous rappelons que nous recevions Tito Ndombi, enseignant en journalisme, président du CESAC, avec qui nous parlions de la redevabilité de son institution, le CESAC.
Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Jeff.
Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis et à mardi prochain.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.